Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous pouvez nous écouter à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme Votre santé, un trésor. Nous rencontrons aujourd'hui le docteur Béatrice Abril, qui est spécialiste du sommeil et chef de service de l'unité des troubles du sommeil et d'acupuncture au CHU de Nîmes, qui fait partie du pôle AMIE, A-M-I-E, pour activité médicale guidée par l'image, jury et exploration fonctionnelle. Bonjour à vous, docteur Abril, et un immense merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour, c'est un plaisir.
Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présentez un peu plus longuement que ce que je pourrais le faire, vos études et pourquoi cette spécialité qui s'intéresse au sommeil.
Alors, je me présente, vous entendez un peu l'accent, donc je suis espagnole, donc j'ai fait une partie de mes études en Espagne.
Et d'une belle région, vous êtes d'une belle région dans l'Espagne.
De Valence, en effet.
Voilà, une région de vacances.
Tout à fait. Et je suis venue en France pour la dernière année de l'internat. Puisque j'avais fait Erasmus à Strasbourg,
Moi,
donc
j'avais
rencontré...
Vous êtes venu à Nîmes, vous êtes plus près de l'Espagne qu'à Strasbourg.
Tout à fait. Et donc, je suis venue en dernière année d'internat et je suis arrivée à Montpellier, où j'ai fait 6 mois aux troubles du sommeil. Et petit à petit, ça m'a plu et j'ai continué à faire les DU, master et à me spécialiser vraiment dans le sommeil. À la base, je suis... neurologue,
voilà,
ou
ça.
Neurophysiologiste en Espagne aussi.
Mais d'accord. Donc vous avez fait vos études classiques de médecine en Espagne,
ouais,
à Valence.
Valencia. Oui, tout à fait.
Et donc à Valence. Et puis avec l'internat, on peut faire des stages. Donc vous avez été à Strasbourg.
Ouais.
Vu le climat, on vous comprend. Vous avez préféré, par l'héliotropisme, vous rapprocher. Vous êtes allé à Montpellier. Et là, vous êtes tombé amoureux du sommeil.
Tout à fait. C'est
donc
un peu
vous
ça.
Vous avez complété. Mais à la base, vous êtes neurologue. Vous êtes
ouais.
un neurologue. C'est important
ouais.
de dire parce que la spécialité du sommeil en France n'existe pas. Il faut que ça
tout
soit.
Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une spécialité très transversale parce qu'il y a plein de spécialités qui s'y intéressent. Bien sûr, la pneumologie, hein,
oui.
avec tous les troubles respiratoires,
alors
c'est
pour,
à la
pour
base...
Nos, pour nos éditeurs, la pneumologie, c'est ce qu'on s'intéresse au sommeil. Moi, je travaille avec des pneumologues qui s'intéressent au sommeil. Pour les apnées du sommeil, c'est-à-dire des pauses pendant le sommeil. M'arrêter si je dis...
Non, c'est tout à fait ça.
Et voilà, des pauses pendant le sommeil qui donnent un sommeil de mauvaise qualité, donc qui a des répercussions dans la vie de tous les jours. Donc les pneumologues, évidemment, sont intéressés. Une petite compétition avec les pneumologues.
Bon, c'est les premiers intéressés quand même.
Il n'y en a plus maintenant de compétition. Je pense que les neurologues ont pris le dessus. Je vais me faire des amis auprès des pneumologues.
Oh, pas tant que ça, parce qu'il y en a d'autres qui s'intéressent. Il y a aussi les cardiologues qui s'intéressent et pour le dépistage des apnées, les ORL, bien évidemment.
Les dermatos?
Non, pas encore. Les médecins généralistes aussi, beaucoup.
Oui, les médecins généralistes, mais ils s'intéressent parce qu'ils sont très consultés. Moi, on m'a demandé, quand je commençais ces émissions, pour tout vous dire, pour la petite histoire, on m'a dit, vous devriez faire une émission sur le sommeil. Alors, je faisais des émissions sans... J'ai dit, mais c'est extrêmement difficile parce que le trouble du sommeil, c'est un symptôme. Sommeil avec un cancer, pour trouble du sommeil avec une dépression. Alors, c'est difficile, enfin, je veux dire, c'est compliqué. Alors, j'ai attendu le bon moment et la bonne personne pour faire une émission. En fait, on va faire 3 émissions sur le sommeil. Alors, le sommeil est un état modifié de conscience... de la conscience du monde extérieur sans perte de la réception sensitive. On sent les mauvaises odeurs quand on est touché, on se rend compte, etc. Quand on dort, accompagné d'une diminution progressive du tonus musculaire sur un an à intervalles réguliers. Alors, ma première question est simple et compliquée à la fois. C'est quoi le sommeil?
Le sommeil, en fait, le sommeil, c'est quelque chose de très actif. On pense que c'est une pause, mais non, c'est une fonction essentielle de l'être humain et des animaux. Et c'est quelque chose de très actif parce qu'il se passe plein de choses au niveau immunitaire, au niveau de l'énergie, au niveau du repos du système cardiovasculaire. Donc, c'est une fonction vraiment très active et essentielle. On ne peut pas vivre sans dormir.
C'est important. Ouais. On torture en empêchant
de
dormir.
Oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté. Non, c'est une fonction comme respirer, comme manger. C'est vital.
Alors, une autre question qui n'était pas prévue, mais j'ai des petites questions à moi, comme ça, qui viennent au fur et à mesure de la discussion. Combien de temps dans notre vie on dort?
Un tiers de notre temps à dormir.
Alors, un tiers de notre temps à dormir, un tiers de notre temps à manger, il ne reste plus qu'un tiers pour apprendre et écouter Radio Alliance Plus, quoi.
Tout à fait, c'est un peu ça.
Et donc, un tiers, c'est quelque chose d'énorme. Donc, il se passe beaucoup, beaucoup de choses pendant le sommeil. Donc, on n'est pas là pour aborder toutes les choses, parce que c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, c'est une spécialité et vous en êtes une digne représentante. Mais j'ai une autre question qui vient à l'esprit. Lors du sommeil, il y a une activité que tout le monde vit, mais les gens ne s'en souviennent pas, c'est le rêve. Alors, bon, j'ai mon idée sur les rêves, j'ai travaillé les rêves, mais est-ce qu'il y a des nouveautés sur les rêves? Est-ce qu'on sait pourquoi, comment
C'est très difficile d'étudier les rêves. Il y a Isabelle Arnulf à la Salpêtrière qui a beaucoup étudié les rêves et en ce moment, ils étudient beaucoup avec des électrodes au niveau oculaire où ils essayent de faire des signes. Les patients, quand on dort et ils rêvent, on leur fait faire des signes de clignement des paupières, pour si c'est positif ou négatif, pour essayer d'étudier
pour
plus
précisément. Pour un contact dans le sommeil.
Tout à fait. Et en fait, ils ont fait ça, pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup étudié la narcolepsie. La narcolepsie, c'est une maladie...
Dites-nous, c'est quoi? Voilà, excusez-moi, vous alliez le dire, excusez-moi.
Ouais, c'est une maladie, on rêve beaucoup et on fait des rêves lucides. Des rêves lucides, c'est les rêves qu'on dirige.
Voilà, qu'on dirige.
Et donc, ils ont utilisé ce modèle pour essayer d'étudier, mais... on ne sait pas encore qu'est-ce que ça veut dire les rêves pour quand on rêve que les dents tombent ou
Vous rêvez que vos dents tombent?
Ça arrive à beaucoup de monde.
Oui, il y a beaucoup. Il y a rêves. Alors, les rêves les plus, c'est les rêves érotiques ou les rêves de vol.
Ouais.
Alors, il y a toute une interprétation. Bon, on est un peu hors du sujet parce que ce n'est peut-être pas votre spécialité, mais c'est important. Je pense que les auditeurs sont intéressés. C'est qu'on analysait les rêves depuis l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on est en contact avec un autre monde dans le rêve.
Oui,
alors, pour le scientifique et le médecin, est-ce que les rêves sont un métabolisme de ce qui s'est passé dans la journée? C'est-à-dire que si on a eu des contrariétés, des frustrations, etc., ben on se soigne par les rêves? Ou au contraire, est-ce que les rêves sont des prémonitions pour l'avenir? Je sais une question pour un scientifique.
Les théories actuelles, c'est plus une gestion des émotions.
Voilà, c'est-à-dire que
les rêves servent pour digérer toutes les émotions de la journée.
C'est pour métaboliser ce qu'on a vécu de plus ou moins bien dans le.
Tout à fait.
Ça peut être bien.
C'est génial. Et d'ailleurs, les cauchemars, on dit de plus en plus que ça sert à anticiper les soucis de la vie, les événements. Donc, les personnes qui font des cauchemars sont plus d'attaque quand il y a des.
Vous êtes en train de nous dire que le cauchemar serait un modèle d'adaptabilité à des frustrations, des complications, etc. C'est-à-dire qu'en vivant le cauchemar, on fait une expérience pour pouvoir s'adapter, une expérience gratuite, puisqu'on se réveille, il n'y a pas de conséquences, et pour pouvoir s'adapter. Très intéressant.
Tout à fait, c'est les nouvelles théories.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus peur de faire de cauchemars.
ça relativise un peu, mais après, les cauchemars, il n'y a pas d'effet la journée. Si les personnes qui ont des maladies de cauchemar, on souffre beaucoup la journée parce qu'ils ont un arrière-goût, c'est désagréable, il y a la hantise d'aller dormir pour refaire des cauchemars. C'est les nouvelles théories, c'est un petit peu ça, on s'adapte, ils sont plus les personnes
Est-ce
qui font
qu'il y a
des cauchemars s'adaptent.
Un endroit du cerveau qui est propice au sommeil.
En fait, il y a la boucle cortico-thalamique. Actuellement, on parle...
Alors, cortico-thalamique, j'explique, le cortex, c'est ce qui est au-dessus du cerveau, où il y a les circonvolutions, c'est ce que vous voyez quand vous voyez une cervelle d'agneau chez le boucher. Et thalamique, le thalamus, c'est un noyau central à l'intérieur du cerveau qui rassemble toute la sensibilité du corps humain.
Oui, et qui est très en lien aussi avec l'amygdale. L'amygdale, c'est là où on...
L'amygdale est une partie interne
du cerveau. Donc là où on gère les émotions. Et là, on parle de plus en plus de sommeil local. C'est-à-dire qu'il y aurait des régions des cerveaux qui sont sommeil profond, d'autres comme les dauphins qui ont un sommeil hémisphérique, c'est-à-dire il y a la moitié du cerveau qui dort.
Ils dorment à droite et ils dorment à gauche.
L'autre
nous, c'est
actif.
En politique, on dort à droite ou on dort à gauche.
Voilà, donc on parle plus de théorie de sommeil local, des parties du cerveau qui sont profondes, d'autres plus actives.
Alors si je comprends bien, on pourrait avoir des phases dans notre état de veille, en fait des microphases de sommeil.
Tout à fait, ce serait...
Voilà, pour s'adapter, récupérer, etc. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, les animaux dorment et rêvent. Mais il y a une question un peu qui me turlupine. Est-ce qu'à votre avis, les végétaux dorment aussi?
Non, je ne crois pas.
Non, vous croyez
non,
pas.
Non, non.
J'avais préposé la question avant, donc elle s'était préparée.
Non, ils n'ont pas de cerveau. Donc, il faut un cerveau pour dormir. Après, il y a des rythmes biologiques. C'est grâce aux végétaux qu'on a découvert l'horloge biologique, les rythmes biologiques sur 24 heures, notamment avec la mimosa, qui, la nuit, avec le...
Le mimosa, oui.
Le mimosa, pardon. Et, en espagnol,
oui, oui, oui.
Elle est féminine.
Comment on dit,
la mimosa.
La mimosa.
Et donc, la nuit, quand il y a l'obscurité, les feuilles se ferment et quand il y a la lumière, elles s'ouvrent.
Oui,
et donc,
ça,
il y a des rythmes biologiques, mais ce n'est pas du sommeil.
Ce n'est pas du sommeil au niveau biologique.
Ouais.
D'accord. Alors, le sommeil, on l'a dit, n'est pas uniforme, mais que l'on ait tendance à le penser. Hein. On se couche, on dort. Ben non, ce n'est pas comme ça. Quels sont les deux grands types de sommeil?
En fait, le sommeil,
je reste simple, parce que là, vous venez nous dire qu'il y en a de multiples. Mais
il y a une succession de stades et il y a le sommeil lent. Donc, il y a une activité cérébrale qui se synchronise, qui va petit à petit devenir de plus en plus profond. Et donc, c'est là où il y a la sécrétion d'hormones, par exemple. On dit en Espagne, et je pense qu'en France aussi, on dit que quand on dort, on grandit.
Oui.
Et donc, il y a la sécrétion de GH, d'hormones de croissance. Et après, il y a le sommeil paradoxal, qui est le sommeil des rêves, le sommeil de l'apprentissage, très actif.
Donc, il y a pourquoi on l'appelle paradoxal?
Paradoxal parce que, en fait, c'est paradoxal parce qu'il est très actif. Ça ressemble presque à de la veille.
Oui. Et alors, qu'est-ce qui fait que... J'ai la réponse, mais je préfère que ce soit vous qui le disiez. Qu'est-ce qui fait que si on rêve de faire quelque chose de malsain, ben on ne le fait pas, en fait. On ne le fait pas.
Parce que vous avez la réponse, parce qu'il n'y a pas de tonus musculaire. Pendant le sommeil paradoxal, on ne bouge pas. Le muscle ne fonctionne pas. Et donc, on ne peut pas agir dans les rêves. Si on rêve qu'on se fait poursuivre, ou si on rêve qu'on court, et on ne va pas courir, puisque alors, le tonus musculaire ne marche pas.
Quand j'enseignais à l'université, j'abordais le sommeil, par exemple, pour la douleur, je disais à mes étudiants, c'est pour ça qu'on sait comment les chats rêvent, de quoi les chats rêvent. Et alors, ils me regardaient avec des yeux, remarquez, c'est vaut mieux qu'ils me regardent avec des yeux qu'avec leurs oreilles. Mais alors, j'ai dit oui, parce que vous ne l'avez pas dit, mais il y a une substance, dite la substance réticulée dans le tronc cérébral, qui bloque. Je demande cette activité musculaire. Et donc, on avait fait un pont artificiel, neurologique, entre le cerveau et le reste du corps. Et on voyait que les chats avaient des comportements de chats, sexuels, etc. Donc, on sait de quoi les chats rêvent.
Tout à fait.
Et est-ce qu'on a progressé là-dedans?
Oh, oui, on a progressé. C'est Jouvet à Lyon qui a découvert ça, cette activité musculaire pendant les rêves chez les animaux. Si vous avez des animaux, on voit tous parfois quand ils dorment. Il y a une maladie chez l'humain qui s'appelle les troubles du comportement en sommeil paradoxal. Et dans cette maladie, on s'active pendant les rêves, on s'agite, on vit ses rêves. Et ça vient du locus subcérébralis, et c'est une petite région du tronc cérébral qui, il n'y a pas cette inhibition de...
Mais vous m'avez fait plaisir parce que vous avez parlé de M. Jouvet, qui était à Lyon. C'est un des premiers chercheurs à vraiment avoir un service sur le sommeil. C'était du temps de ma jeunesse et je suivais ses travaux. Je vous propose à présent, sans vous endormir, une petite pause musicale avec une musique pour dormir. Vous écoutez Votre Santé un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus en 3.2 FM. Nous recevons aujourd'hui la docteure Béatrice Abril, qui est spécialiste du sommeil et chef de service de l'unité des troubles du sommeil et d'acupuncture au CHU de Nîmes. Elle nous entretient du sommeil. Une question que j'aurais aimé vous poser est la suivante. Existe-t-il une histoire du sommeil ?
Tout à fait. Le sommeil s'est modifié au fil du temps. Et donc, dans les premières civilisations, c'était un état proche de la mort. Et après, un peu plus tard, en Moyen Âge.
Vous dites que c'est un état proche de la mort, c'était interprété comme.
Oui,
état.
C'était interprété, voilà. Tout à fait.
Le sommeil, en fait, biologiquement, le sommeil n'a pas changé.
Effectivement.
Voilà, depuis la préhistoire jusqu'à maintenant, les hommes, il doit y avoir des modifications quand même, parce que, mais les hommes ont dormi plus ou moins. Pareil, quoi. Hein.
Oui, sauf que, par exemple, au Moyen-Âge, c'était un sommeil biphasique qu'on appelait. On dormait 2-3 heures. Oui. Après, on était 2-3 heures actifs. On priait, on mettait des bûches, on réchauffait, on écrivait. Et après, on redormait 2-3 heures. Et c'est avec l'électricité que le sommeil est devenu monophasique, c'est-à-dire qu'on dort la nuit normalement d'affilée et qu'il n'y a plus cette coupure.
Quand on n'est pas perturbé par l'écran du téléphone portable. Hein.
Par exemple.
Donc, il y a une histoire du sommeil, non pas du sommeil au sens biologique, mais de l'appréhension du sommeil, de l'adaptabilité des gens au sommeil. Et alors, une question qui me vient à l'esprit, puisque vous avez parlé du Moyen-Âge et des coupures de sommeil. Donc, on sait qu'il y a des gens qui vivent d'une manière monacale, que ce soit dans d'autres civilisations que nous ou en Occident. Et ils ont des phases de sommeil, de prière, comme vous venez de dire. Est-ce que c'est mieux point de vue physiologique et pour la santé, plutôt que d'avoir une grosse phase de sommeil de 22h30 à 6h du matin ou 7h du matin.
Je ne dirais pas que c'est mieux ou c'est pire. Le problème, c'est qu'il faut s'adapter à la société.
Voilà, c'est l'endroit où on vit. Qui
voilà, donc si vous devez travailler à 7h du matin et que vous avez eu 2-3 heures de coupure, ça va durer.
On pourrait trouver que c'est mieux par rapport à la santé.
Non, parce que du moment où vous faites vos sabbats de sommeil, c'est parfait.
Vous qui êtes espagnol, il y a quelque chose que j'aime beaucoup en Espagne, c'est la sieste.
Oui, tout à fait, mais ça c'est un peu un mythe quand même, parce que quand on travaille...
Moi c'est un mythe très agréable que je pratique et que je cultive.
On a l'impression que les Espagnols se couchent à 1h du matin et qu'ils font la sieste. Donc, en fait, on aime bien faire la fête, hein, ce qui est très, très super. Mais quand on travaille, on a des horaires comme tout le monde.
Non, on me dit que les Espagnols font la sieste, mais il y a d'autres endroits où on fait la sieste. Par exemple, moi, je suis un adepte de la sieste, mais c'est positif. La sieste.
Oui, oui, pour un bon dormeur. C'est positif pour un bon dormeur.
Et est-ce que la sieste fait dormir?
Ah ben si, on dort, on se repose 15-20 minutes.
J'ai beaucoup de patients qui disent, non, moi, je fais pas la sieste parce qu'après, je peux pas dormir.
En fait, je reviens, la sieste, ça doit être un plaisir. C'est pas parce qu'on est en manque de sommeil. Donc, c'est pour les bons dormeurs.
Vous avez une philosophie de vie, c'est tout ce qu'on doit faire doit être du plaisir, c'est un beau programme. Alors, beaucoup de personnes se plaignent d'insomnie, ce sentiment d'avoir mal dormi en raison de difficultés d'endormissement et ou d'un ou de plusieurs réveils nocturnes, d'un réveil trop précoce le matin. Qu'en est-il de la prévalence de l'insomnie en France ?
La
prévalence, c'est l'état des lieux, si vous voulez, d'une pathologie dans une population.
Donc l'insomnie, c'est une maladie. Hein. C'est pas un symptôme, c'est vraiment une maladie. Les pourcentages, les prévalences, les incidences, c'est difficile parce qu'il y a différents degrés de sévérité. Donc on peut dire que 9% de la population a une insomnie sévère avec un fort retentissement la journée.
Je vous coupe 30 secondes, que les auditeurs se rassurent, nous allons avoir une émission que sur les troubles du sommeil.
Tout à fait. Donc l'insomnie, c'est 9% de la population c'est énorme. C'est une pathologie très commune, très fréquente et qui se soigne. Donc il y a beaucoup de personnes. Notre problématique, en tout cas dans le service et je pense que dans les autres services, c'est que les personnes arrivent après 20 ans, 30 ans d'insomnie.
Oui, il y a des gens qui sont insomniaques toute leur vie, quoi.
Ouais, alors que je pense que s'ils arrivaient avant, on pourrait préconiser des systèmes pour améliorer le sommeil et ça ne deviendrait pas si chronique et si difficile à traiter.
D'accord. Et alors, bon, l'insomnie, ce n'est pas forcément le médicament, la traitement.
Ah non.
Ouais, voilà, vous avez d'autres approches, je pense qu'on l'abordera, mais c'est important. C'est aussi à prendre en charge, parce que l'insomnie rend malade. Enfin, c'est une maladie, mais aggrave d'autres maladies.
Oui, oui.
Surtout, rend mal les gens. On est mal quand on dort mal.
Ça a beaucoup de conséquences. Hein. L'insomnie, ça a des conséquences, bien sûr, au niveau moral, mais aussi au niveau cardiaque. Les personnes qui dorment peu et mal ont plus infarctus. Plus hypertension, obésité, il y a beaucoup de liens entre sommeil et poids, donc ça a beaucoup de conséquences. Donc je vais pas, on a tous passé des nuits d'insomnie, hein.
On
relativise.
Non, mais il y a des somnies épisodiques, par exemple quand vous avez une mauvaise nouvelle, une catastrophe, vous dormez pas, c'est normal, ou une joie, vous dormez pas, mais ça c'est une nuit, deux nuits.
Ouais.
Mais il y a des gens qui dorment mal toute leur vie, quoi.
Ouais, donc il faut pas hésiter à consulter parce qu'il y a des mesures à mettre en place pour améliorer.
Aujourd'hui, c'est ne restez pas en mal dormant, soignez-vous, parce qu'il n'y a pas que des répercussions au niveau de votre sommeil, il peut y avoir des répercussions sur votre état général et votre vie. Alors, dort-on de la même façon suivant l'âge que l'on a ?
Non. Le sommeil évolue avec l'âge. Quand on est plus petit, on dort beaucoup et plus on avance dans la vie.
Les jeunes parents vous diraient que.
Plus petit, je parle de l'enfance. Mais plus on avance dans l'âge, moins on dort et moins on fait de sommeil long profond.
Ah, ça, c'est important. C'est-à-dire que la qualité d'un bon sens du terme, c'est-à-dire que profond ou paradoxal, change
un petit peu. Et après, la structure change aussi, parce qu'on se permet plus, quand on ne travaille pas, de faire une sieste.
Ouais.
Et parfois, on s'endort sur le canapé un petit peu.
Oui, ça, c'est le problème de la télévision.
Oui, tout à fait. Donc, on ne peut pas prétendre dormir à 20 ans. À 70 ans, comme on dormait à 20 ans.
D'accord.
Et donc, ça se modifie, c'est normal, on se dépense moins. Ça, c'est tout à fait normal. Et il y a un truc très important que je revois souvent chez les patients qui disent « Et quand je serai à la retraite, je dormirai mieux ». Et ça, c'est un mythe. Parce que quand vous travaillez, vous avez des impératifs. Vous devez vous lever, peu importe la nuit, vous vous levez, vous êtes actif la journée. Alors que quand on ne travaille pas, si on ne se met pas des impératifs, ben, on traîne. Et du coup, on dérègle plus ce système.
Je peux me dénuder du vécu parce que je voyage pas mal, et notamment avec des retraités, puisque c'est les retraités qui voyagent. Surtout,
ouais.
Hein, il n'y en a pas un qui dort. Quoi. Et tout le matin, je dis, ben, dormir, ah non, j'ai mal dormi. Me culpabiliser de bien dormir.
Je vais vous accompagner
mais
la prochaine fois.
Mais ils dorment tous mal, quoi. Bon. Alors, le manque de sommeil peut-il entraîner des troubles ? Alors, on l'a dit, hein, mais est-ce que si jamais on ne peut pas dormir pour X raisons, par exemple, travail de nuit ou autre, hein, pour les médecins quand ils sont de garde à nuit, est-ce que le manque de sommeil peut-il entraîner des troubles et est-ce qu'il y a un risque pour la santé ? On l'a dit, mais ma question, c'est le manque de sommeil forcé.
Et oui, on sait, des études montrent que, par exemple, le personnel médical, surtout les infirmières qui font du travail posté, nuit, jour, dorment moins, il y a plus d'obésité et plus de cancer, hein, ça c'est connu.
D'accord. Donc il faut dormir. C'est-à-dire que quand,
c'est important, c'est quelque chose, il ne faut pas le négliger.
Il ne faut pas travailler et prendre sur son sommeil, il faut cultiver
un bon
sommeil.
Sinon,
on tombe malade.
Et si on n'arrive pas, parce que, par exemple, le travail posté, il y a des personnes qui s'adaptent mieux que moins bien. Si on ne s'adapte pas, il ne faut pas hésiter à consulter pour essayer de peut-être dire je ne travaille que de nuit ou que de jour, parce que c'est les roulements qui sont difficiles.
Alors, une réponse simple. Je vous demande une réponse simple parce que comment soigne-t-on les troubles, les maladies du sommeil ? Bon, en simplifiant, car ce sujet sera repris dans une prochaine émission, mais pour indiquer à nos éditeurs comment, en gros, on traite les troubles du sommeil.
Donc, on traite la cause, bien sûr. Si c'est les apnées, c'est les apnées. Si c'est les impatients, c'est l'impatience.
Alors, il faut dire que l'apnée, c'est une pause respiratoire. Hein. Apnée, c'est... on respire plus.
Oui, une pause respiratoire répétée qui induit des conséquences. Donc, la première chose, c'est faire un diagnostic. On va traiter la cause. Si, par exemple, on parle d'insomnie, comme c'est le cas aujourd'hui dans cette émission, la première indication, c'est ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, c'est la thérapie qui marche. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire changer les pensées et les comportements. C'est comme une rééducation.
Mmh.
Et ça marche très bien. Ça marche vraiment très bien. Ça prend du temps, mais ça guérit l'insomnie. Et les médicaments sont là, parfois on en a besoin, mais c'est ponctuel. Ça ne va pas guérir l'insomnie. C'est un pansement, les médicaments.
Pardon, allez-y, excusez-moi.
Non,
Est-ce que vous utilisez la sophrologie, l'hypnose?
Oui, bien sûr. Il y a des personnes qui fonctionnent très bien avec la sophrologie, l'hypnose, l'acupuncture. Et chacun a sa méthode qui permet de se détendre. Et juste, je pourrais dire un petit conseil. Plus on essaye de dormir, moins on dort.
Ah, alors n'essayez pas, laissez-vous faire, laissez-vous prendre par le dieu Morphée du sommeil. Eh bien, merci à vous, Béatrice Abril, et merci de votre présence et de tout ce que vous nous avez appris. Merci infiniment à vous.
Merci.
J'ai l'habitude de finir, vous le savez, cette émission par une rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui. Les livres que vous conseillez, ou un livre que vous conseillez, docteur Abril, sur le sommeil.
Il y a un livre sur l'insomnie qui a été fait par un Canadien, Charles Morin, et qui s'appelle « Vaincre les ennemis du sommeil ». Donc, si ça vous intéresse, c'est plus sur l'insomnie, et vous pouvez le commander. Charles Morin, « Vaincre les ennemis du sommeil ».
Très bien. Eh bien, je vous remercie encore et merci pour ce conseil de lecture. Je remercie Louis à la technique et Chanel au visuel et toute l'équipe de Radio Alliance Plus. Je vous renouvelle mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre santé, un trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien-dévoué.